pour les pays qui ont aboli la peine de mort, il y a une obligation qui leur est donnée de continuer à promouvoir l'abolition de la peine de mort et de faire tout pour s'assurer certainement que leurs ressortissants ne font pas face à la peine de mort. Donc moi, j'ai malheureusement eu plusieurs cas de personnes provenant de pays abolitionnistes, par exemple la France, qui ont été probablement transférés dans un pays comme l'Irak, qui est un pays qui a toujours la peine de mort, sans que des garanties suffisantes aient été obtenues de la part de la France qui protégerait leurs ressortissants contre l'utilisation de la peine de mort. Et ces cas-là se sont un petit peu trop renouvelés. Ils se font en général dans le secret. Les informations ont du mal à percer. Moi, je les reçois très tard, une fois que les personnes ont déjà été condamnées à mort dans le pays qui les a reçues. Donc, le fait que des pays abolitionnistes non seulement transfèrent leurs ressortissants dans un pays qui continue d'utiliser la peine de mort, c'est une violation de leurs obligations internationales. Le fait qu'ils n'obtiennent pas de garantie de la part de l'État qui va les emprisonner, ça c'est aussi une violation de leurs obligations en droit international. Et le fait qu'ils n'apportent pas d'assistance consulaire une fois que les personnes ont été transférées, comme je le démontre dans mon rapport, ça aussi c'est une violation du droit international. Là, je vous parle de cas quand même bien spécifiques, de personnes qui ont été accusées de crimes dans le cadre du contre-terrorisme ou du terrorisme.
Les combattants terroristes étrangers ?
Voilà, les combattants terroristes étrangers, les combattants de Daesh. Donc, au cours des deux dernières années, depuis 2018, j'ai envoyé une quinzaine de communications à plusieurs États, la plupart d'entre eux sont abolitionnistes, pour leur mettre en avant le fait que les ressortissants sont détenus en Irak, qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà été condamnés à mort, mais qu'ils n'ont pas reçu, d'après les informations que j'ai, d'assistance consulaire effective et efficace. Donc ça, j'en parle, entre guillemets, avec ces pays depuis deux ans. Au cours des six derniers mois, la situation s'est détériorée. J'ai reçu beaucoup d'allégations comme quoi des ressortissants qui étaient détenus en Syrie du Nord-Est ont été transférés en Irak par certaines autorités, c'est pas très clair, mais de ce qu'on sait qui est très clair, c'est qu'elles ont été transférées depuis les camps où elles étaient détenues, contrôlées par les forces démocratiques kurdes qui sont abolitionnistes, pour transférer vers l'Irak, rétentionniste, et condamné à mort dans le cadre de procès rapides, etc.
Mais c'est avant l'offensive turque.
Absolument. Depuis plusieurs mois, les rapporteuses spéciales, par exemple la rapporteuse spéciale pour respect des droits humains dans le contexte du contre-terrorisme, avaient à plusieurs reprises demandé à ce que les enfants ressortissants soient rapatriés vers leur pays d'origine, ce qui n'a pas été fait à part pour de petites exceptions. Moi, j'ai demander à ce que les ressortissants étrangers soient eux aussi rapatriés, même s'ils sont accusés de crimes dans le cadre du conflit, parce que l'Irak n'est pas à même d'apporter une solution justiciable aux crimes qui ont pu être commis par ces gens-là, dans la mesure où les procès irakiens ne répondent absolument pas aux standards et aux garanties que l'on pourrait attendre de procès aussi importants que ça. Et ce que moi j'espère, c'est que si les combattants de Daesh, qu'ils soient français, belges, néerlandais, etc., s'ils sont rapatriés dans leur pays d'origine afin de faire face à la justice, il faut que ça permette aussi à certaines de leurs victimes de pouvoir être présentes et de pouvoir parler et de pouvoir être écoutées.
Les États concernés, la France, la Belgique, doivent quand même avoir certaines préoccupations face au rapatriement.
Tout à fait.
Ça pose quand même un problème.
Bien sûr.
Pour eux, c'est sécuritaire, certainement.
Voilà. Ça pose de nombreux défis, ça ne fait aucun doute. Pour moi, ce sont des défis auxquels les États et nos institutions doivent répondre. Il n'y a pas d'autres options au vu du droit international. Les seules autres options consistent à violer le droit international. Donc, est-ce que l'on crée des solutions ? Est-ce que l'on met en place des réponses au terrorisme sur la base de violations ? Non. On ne peut pas. Ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire.
De ce qu'on défend.
De ce qu'on défend. Donc, je ne suggère pas que ce soit la meilleure solution, simplement parce que pour moi, la meilleure solution, c'est quand même d'avoir des procès dans la région où les crimes ont été commis. Cependant, ça fait 2 ans et qu'on n'a pas mis du tout en place les mécanismes qui pourraient permettre à des procès équitables d'avoir lieu, à la fois pour les combattants présumés, équitables pour eux, mais surtout pour les victimes aussi.